Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Benoît Gandolfi. Benoît, comment vas-tu ?
Écoute François, ça va plutôt bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis vraiment heureux d'être là avec toi.
Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir. Ça fait longtemps que j'avais coché ton nom ou j'avais écrit ton nom dans la liste des invités que je voulais recevoir, notamment après avoir reçu Stéphane, hein, qui est un ami à toi, et j'avais vu que vous faisiez pas mal de choses ensemble, et je m'étais dit tiens, faudra recevoir Benoît aussi un jour. Alors est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Benoît?
Alors ben, je m'appelle Benoît Gandolfi, j'ai 34 ans, je suis Vosgien, c'est des particularités qu'on aime bien mettre en avant et que j'aime bien mettre en avant parce que c'est un territoire qui me tient à cœur. Je suis prof de PS, je suis accompagnateur en montagne et sur le temps qui me reste, je cours, je roule et je skie un petit peu sur le massif Vosgien et un peu partout dans nos belles montagnes.
Alors récemment, j'ai vu que tu avais fait un défi 24 heures de dénivelé positif. Hein, c'est un défi qui t'a quand même animé sur ce début de saison. Comment s'est passé ce défi ? J'avais envie d'en parler avec toi. J'avais reçu aussi sur le podcast d'autres hein, qui ont déjà tenté ce défi. Mais toi, ta vision de cette épreuve, comment c'était ?
Écoute, ouais, ça fait un bon petit mois et demi maintenant que c'est passé, donc j'ai un peu plus de recul sur l'événement qu'a eu lieu. C'est quelque chose que j'avais tenté en 2020, juste après le confinement, en août 2020, et où je m'étais cassé les dents totalement dessus parce que j'avais pas saisi l'ampleur un petit peu de la chose, de courir 24 heures dans du dénivelé. Je m'étais juré d'y retourner et je m'étais laissé le temps qu'il fallait. Parce que je viens quand même du kilomètre vertical où on a un effort entre 30 et 40 minutes. Donc là, passer à 24 heures, c'était vraiment un petit peu l'extrême opposé de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc voilà, j'ai mis 3 ans pour m'y préparer, entre guillemets, hein, même si les 6 derniers mois ont vraiment été consacrés à ça. Et voilà, j'ai fait 16 170 mètres de dénivelé. Bien loin du record de Christophe Nonorg. J'étais parti sur les bases pour essayer de tenter ce record et cette barre des 18 767 mètres de Christophe. Et voilà, il y a plein de choses qui ont fonctionné, il y en a plein d'autres qui n'ont pas encore fonctionné. Et je me suis rendu compte que sur 24 heures de course, il y a un petit paramètre qui peut partir en vrille et qui rebat les cartes et qui te fait sentir bien humble malgré la prépa qui avait été plus que sérieuse. Donc c'est vraiment une grande aventure que j'ai vécue à moins d'un kilomètre de la maison. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai construit un petit peu à main nue, du choix de la boche jusqu'à la stratégie à mettre en place sur ce type d'épreuve avec un roulement de pacer, des copains en fait qui venaient chaque heure me relayer. Donc ça a vraiment été une franche réussite sur toute l'organisation et sur tout ce que j'ai vécu et ce que j'en retire. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose de remarquable qui va vraiment me servir pour les événements et puis les projets à venir. Par contre, ouais, d'un point de vue chiffré, c'est voilà, je suis encore loin de ce qu'ont pu faire les meilleurs, donc dans un coin de la tête, là, je sais que je reviendrai sur la distance, sur le format de 24 heures de dénivelé, parce que c'est vraiment ce qui m'anime, le dénivelé, et essayer d'optimiser cette performance. Mais je vais me laisser le temps, un peu comme entre la première et la deuxième tentative. Je ne sais pas s'il se passera 3 ans avant la prochaine, mais en tout cas, il y aura du temps, puis d'autres expériences à accumuler. J'ai, j'ai commencé à avoir un petit peu toutes les armes qu'il faut, enfin toutes les cordes qu'il faut avoir à son arc pour vraiment performer et réussir à être au maximum sur ce format de 24 heures qui est quand même quelque chose de, quand on y pense, d'assez incroyable. Donc voilà, un mois et demi après, j'en retire vraiment une pleine satisfaction et aussi un goût d'inachevé, mais je pense que c'est ça aussi le moteur de la performance, c'est entrevoir quelque chose de possible, savoir que voilà, je suis capable de faire ça pendant 24 heures, maintenant il va falloir aller chercher les petits points qu'on merdait, quoi.
Et alors justement, comment est-ce qu'on prépare ça? Parce que au-delà de faire des allers-retours, de se faire des bonnes grosses séances de dénivelé, j'imagine des gros blocs aussi à vélo. Enfin voilà, comment est-ce qu'on prépare une épreuve comme ça de dénivelé?
J'ai commencé la prépa en novembre pour un événement qui était fin avril, et j'ai vraiment privilégié entièrement et quasiment exclusivement de la course à pied. Alors que j'ai vraiment l'habitude pour préparer d'autres événements, même plus longs du KV, j'avais beaucoup l'habitude de rouler et puis de faire du ski alpi. Mais là, je savais vraiment que c'est la descente qui allait être le facteur limitant, hein, la casse musculaire en descente. Du coup, j'ai vraiment privilégié 95% de course à pied durant tout l'hiver. Donc, ça a été assez... au début un peu frustrant, puis après assez enivrant de se dire que voilà, il y avait des blocs uniquement de course à pied, alors que l'hiver j'ai vraiment l'habitude de skier, puis aussi de faire du vélo home trainer. Là j'ai exclusivement centré sur la course à pied, c'est peut-être une erreur d'avoir voulu exclusivement centrer ça sur de la course, j'aurais peut-être dû aussi croiser un peu plus, et ça sera un des éléments d'une prochaine prépa sur ce format là. Et du renfort musculaire quand même couplé à de la aux entraînements de course, et oui, c'était vraiment très très ciblé, hein. c'était des ratios environ 10 km 1000 mètres de dénivelé dans la prépa, et je m'étais vraiment fixé du dénivelé par semaine, environ 10 000 mètres de dénivelé par semaine sur 18 semaines, donc c'est ça a fait environ 200 000 mètres de dénivelé, donc du très spécifique avec du gilet lesté aussi, un peu de renfort pour être prêt le jour J. Et finalement, d'un point de vue physique, il n'y a pas trop eu de couac. Ça a plus été sur tous les à côté. Donc, je pense que physiquement, le corps était prêt, parce que même après, il a quand même assez bien récupéré de la charge. Toi, deux semaines après, je pense que ça allait vraiment bien. Après, c'est toute la composante mentale d'un tel événement. J'ai vraiment tout centré cette prépa là-dessus, et mentalement, alors l'avant et l'après. Ont été assez difficiles à gérer. Là, l'après-événement, il en ressort comme un vide, comme quelque chose de « Ah ouais, maintenant que c'est passé, ben, on rebondit sur quoi ?» Donc c'est plus l'aspect mental que l'aspect physique qui a pêché, je pense. Donc voilà. Physiquement, je pense que la prépa a été bonne, même s'il faudra la coupler à des sports croisés la prochaine fois pour quand même aussi un petit peu se préserver. Mais d'un point de vue mental, ouais, il y a mille et une choses encore à aller piocher à droite, à gauche.
Quand j'ai reçu Christophe, juste après son record, dans l'épisode 178 du podcast, il nous avait partagé qu'il avait vraiment préparé ça de façon très mathématique. Hein. C'est son dada, les maths. Mmh. Toi, quand tu as préparé ça, du coup, tu as vraiment aussi tout calibré, mesuré le degré de la pente, tout ce que tu devais manger, tout était vraiment préparé au millimètre, ou tu t'es laissé quand même un petit peu la place à ton ressenti du jour J. Et comment est-ce que t'as fait pour justement passer les moments de lassitude? Parce que j'imagine que sur 24 heures, il y a des moments où on doit en avoir quand même marre, pour pas dire autre chose, de faire ces allers-retours dans cette pente.
Alors, plusieurs questions là dans ce que tu viens de me dire. La première chose, alors Christophe Nenorg, on s'est vraiment lié d'amitié pendant ma prépa, parce qu'il voyait que, comme lui, je prenais très au sérieux le fait d'axer 6 mois de ma préparation sur cet objectif-là. C'était pas quelque chose d'annexe. Donc on s'est naturellement rapprochés, et puis finalement, j'ai jamais voulu le copier ni savoir trop ce qu'il avait fait. Et puis en discutant, même en se rencontrant, il est venu dans les Vosges, je suis venu chez lui. Et ben j'ai vu que finalement on abordait un petit peu l'événement de la même façon. Je pense que j'ai un esprit aussi très cartésien sur ma prépa et les chiffres m'ont toujours intéressé. Donc là, c'est sûr que quand on parle de dénivelé et de dénivelé à faire par jour, on va dire, sur la prépa, on était quasiment dans la même optique. Donc, de par le côté très chiffré de la performance, parce que finalement, sur 24 heures, on retient un chiffre à la fin, hein, alors que sur les autres courses, on retient souvent une place. Là, c'est vraiment le chiffre final du dénivelé qu'on a réussi à faire. Donc oui, je pense qu'on est des esprits très cartésiens, et c'est marrant, durant la prépa, je m'intéressais aussi à la Barclay qui avait lieu un peu en février, mars, là, et je me rends compte que les gars qui sont finishers de la Barclay, c'est souvent des gars dans le milieu qui sont ingénieurs, qui rationalisent beaucoup la performance. Donc ça m'a ni rassuré ni, mais je me suis dit ouais, je fais peut-être partie un peu de ces gars-là, qui est... je pense que c'est un moyen pour nous de se rassurer aussi, de se dire ouais, voilà, on a un plan de marche, et puis quand on arrive à l'entraînement à le mettre en œuvre, ça nous rassure et on sait qu'on est sur la bonne voie. Ça, c'est sur le plan physique, et je pense que ça a vraiment bien marché. Après, sur le plan mental, j'étais prêt à, enfin, il me semblait que être prêt à pouvoir encaisser cette lassitude des 24 heures. Quand tout se passe bien, ouais, les 10 premières heures, on exécute le plan, et puis c'est finalement facile parce qu'on était prêt physiquement à le faire. Par contre, une fois que ça part en couille, et c'est parti assez vite en couille finalement, moi, au bout de 10-11 heures, hein, on n'est même pas à la moitié. Là, ouais, là, je me rends compte que j'étais pas encore armé suffisamment pour faire face aux imprévus. Et heureusement que, ben là, comment dire, c'est le seul événement où tu peux avoir toute ta famille, tous tes copains qui sont là sur un même lieu, parce que on est à la maison, il y a tout le monde, et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils me connaissent et ils ont réussi à tour de rôle à trouver les mots, parce que j'étais pas armé pour faire face à l'imprévu et faire face au coup de mou qu'on duré bien trop longtemps pour que la perf soit plus haute. Donc ouais, la gestion de la, c'est même pas de la gestion de la lassitude, c'est vraiment la gestion du temps faible qui m'a été, enfin, que je me suis pris en pleine gueule, et je me suis dit ah ouais, ok, on m'a parlé en ultra qu'il y avait des temps faibles, que ça revenait, mais quand tu le vis et que t'es au fond du seau et que tu regardes la montre et que tu dis ok, il reste 12 heures de course, eh ben ouais, il faut que les proches autour de toi soient assez solides aussi pour te rebooster, parce que je serais vite rentré à la maison, et finalement quand ça revient au petit matin là, au bout de 19-20 heures de course, et que ça revient fort, et que ça, tu te dis ouais, c'est incroyable, ça valait le coup de serrer les dents. Mais je pense l'avoir vécu une fois et le revivre sur des événements un peu plus calibrés, sur des ultras plus classiques, je pense que c'est ce qui va un peu m'animer là les prochains temps pour faire mes armes là-dessus, sur la gestion du temps faible. Et je pense que les tout meilleurs en ultra, c'est pas forcément des gars physiquement plus costauds que les autres, mais c'est des gars qui arrivent à gérer ces temps faibles là, et quand tu sais qu'ils vont arriver, que tu les gères et que ça revient plus vite que prévu, c'est là que ça fait la diff. Et moi, c'est clairement là que ça a pêché.
Mais tant que tu l'as pas vécu, c'est complètement contre-intuitif de te dire que ça va revenir, parce que, enfin,
c'est complètement, quand tu... enfin, et je voulais même pas l'entendre, en fait, parce que les gens qui, mes proches, les copains, les gars de la team, nos athlètes qu'on a avec Stéphane, étaient là, et des gars qui ont plus d'expérience que moi, des fois en ultra, parce que moi, je suis novice là-dedans, qui me disaient, mais tu verras, ça va revenir fort, mais, t'as juste envie de leur dire, mais fermez vos gueules, j'ai pas, enfin, ça reviendra pas, je me connais. Et en fait, non, on se connaît pas. On se connaît pas tant qu'on n'a pas vécu ce truc-là. Donc, je l'ai vécu une fois, et puis je vais le revivre, je pense, des dizaines de fois, jusqu'à ce que, ouais, faut savoir au plus profond de toi-même que, ouais, ça va revenir, puis quand ça reviendra, ça ira même plus fort qu'avant, et le fait de se le dire, je pense que c'est déjà une, une sacrée étape de fait. Et moi, j'ai vraiment pas réussi à le faire.
C'est vrai que ça, c'est un des trucs en ultra qui est le plus jouissif quand t'étais vraiment au fond du trou et puis que là, tu vois, t'as surtout quand t'arrives, je sais pas, sur un sommet et puis que c'est à ce moment-là que revient la forme, c'est tellement kiffant. Enfin, moi, je souhaite vraiment à tout le monde de le vivre et t'as une espèce de plénitude qui se crée. C'est vraiment super chouette à vivre. Comment est-ce que tu passes d'un format aussi long, 24 heures, c'est quand même long, à kilomètre vertical. Enfin, tu vas, j'imagine, revenir sur le kilomètre vertical sur cette saison.
Non. Pas, tu vois, cette saison, non. Moi, le KV, je suis vraiment arrivé dans la discipline par le kilomètre vertical. En fait, j'ai fait un peu de trail court, entre guillemets, comme tout le monde, mais quand on commence, et puis j'en ai vite fait le tour. Enfin, il n'y avait pas de course, même. Tu vois, même Zegama, Sierra Zinal, c'est des courses que j'adore suivre. Mais je me suis jamais, enfin, ça m'a jamais fait vibrer de me dire j'ai envie de faire ça. Par contre, le kilomètre vertical, je sais pas, ça s'est tout de suite révélé à moi comme quelque chose de, enfin, qui révélait assez l'essence de la discipline. Je trouve que tu vois une montagne, t'es au pied, tu te dis allez, peu importe qu'elle fasse 1000 mètres de dénivelé, un peu moins, un peu plus, mais le fait d'arriver au sommet le plus rapidement possible, je trouve que moi, ça m'a toujours, dans la symbolique, fait assez rêver. Donc ouais, le kilomètre vertical, j'en ai fait 4 ans, vraiment, où je faisais les circuits européens, les circuits mondiaux, des championnats d'Europe, tout ça. Donc ça. Et à la fin de la saison dernière, à la finale du circuit mondial, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du truc. Enfin, tous les KV qui me faisaient rêver, j'ai pu les faire, j'ai pu y aller plusieurs fois. Et puis, j'avais toujours ce 24 heures dans un coin de la tête. Et je me suis dit, je pense que c'est vraiment la période pour opérer un petit peu la transition, puis aller sur, aller sur des ultras maintenant qui me font rêver et qui... beaucoup plus que du trail court. Donc je reviendrai peut-être sur du KV de façon ponctuelle, même si quand on part dans des prépas longues, on perd forcément un petit peu en explosivité. Donc ça va être compliqué de pas pouvoir préparer spécifiquement un KV et puis retrouver un niveau qui était le mien avant, mais c'est pas grave, parce que oui, le KV, ça m'animera forcément toujours. Donc j'y reviendrai, mais là, cette saison, je vais vraiment, ouais, j'ai deux événements là en cours jusqu'à la fin de saison que j'aimerais vivre, et ça va plutôt être sur du long, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, comme moi, est vraiment pourri en montée? C'est quoi les capacités qu'il faut avoir pour être fort en montée, et comment est-ce que tu accompagnes les athlètes qui n'habitent pas en montagne pour progresser sur ce sujet-là, mis à part faire des allers-retours dans une côte de 50 mètres de D+.
Ouais, alors ça, c'est une vaste question. La première chose, je pense qu'il y a une part génétique qui est juste incroyable, incroyablement frustrante pour... moi, quand j'ai commencé la course, alors, parce que il y a 7-8 ans, je ne courais pas du tout. Hein, j'ai tout de suite trouvé que monter, c'était assez facile, parce que j'ai un rapport poids-puissance, mais ça, c'est la nature qui me l'a offert, qui est plutôt bon. Bon, alors voilà, le côté génétique, l'athlète, il n'a pas forcément envie d'en entendre parler, parce qu'on lui a... il n'y peut pas grand-chose, le pauvre bougre. Après, j'ai des athlètes qui habitent en plaine et qui ont du mal. Donc oui, l'aller-retour dans la petite bosse du coin, c'est quelque chose qui faut y passer par là. Et puis après, tu te rends compte que l'athlète, il peut aller à droite, à gauche, en montagne, et qui va pas forcément être attiré par la montée parce que c'est son point faible, et on est assez feignant de base, et on veut tout le temps plutôt privilégier ses points forts et ses points faibles, les mettre un peu sous le tapis et se dire, ouais, bon, je suis pas bon à monter. Un peu comme quand on nous répétait quand on était petit, personne n'est bon en maths dans la famille, donc c'est pas grave. Enfin, une sorte de pesanteur comme ça qui te... Non, en fait, des fois un peu se sortir les doigts et puis y aller axer sur ses points faibles. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant dans notre discipline parce que c'est le seul moyen de progresser. Donc progresser en montée, il y a mille et une séances de possibles, mais ça va être au début, parce que le facteur plaisir, il est primordial. Donc ça va vraiment être essayer de prendre plaisir à monter et ensuite savoir que, ben, comme sur de la course, sur du plat, on a des allures en montée. Et je pense que bosser au cardio au début en montée, c'est quelque chose d'intéressant. Même si après les athlètes, j'essaye au maximum de les écarter de sensations chiffrées. Mais au début, je pense que moi, j'ai progressé vraiment comme ça. C'était monter au cardio et voir que, à 5-6 pulses près, tu peux vite basculer dans des allures qui sont pas la tienne et exploser. Et en course, c'est 90% de choses qui arrivent, c'est de partir comme une balle en montée et puis derrière être totalement dans les choux. Donc, l'entraînement en montée, c'est quelque chose qui est important et qu'on ait un cavé au pied de la maison, qu'on ait une bosse de 50 mètres, finalement, c'est pas si grave que ça.
Moi, ce que je me dis, c'est que je vais, après la montée, vient la descente, et comme la descente, j'adore ça, et ben, il faut forcément monter pour pouvoir aller faire son petit plaisir de descente. Et c'est ça qui m'aide à aller faire ces séances-là.
Ouais.
Tu disais qu'il faut avoir son petit élément de motivation, et ça, c'est le mien.
Ouais. Et puis, clairement, que l'athlète prépare du court ou du long, je trouve que c'est pas du tout la même optique. Sur du long, faut vraiment voir la montée comme la partie finalement où tu te reposes. C'est Steph qui m'avait donné ce truc-là parce que moi, au début, on pouvait faire une sortie longue et toutes les montées, j'avais envie de les bousiller parce que c'est ce que j'adorais. Et tu te rends compte que ouais, ça tient 20 bornes, mais que sur une sortie longue, faut être capable. Un UTMB, faut être capable. Il y a environ, on va dire que c'est 10 montées de 1000 mètres de positif, à peu près l'UTMB. Quand tu vois un Pau Capel, alors je sais plus quelle année, là où il fait une perf stratosphérique, il monte tête au vent la dernière montée, comme il a monté la première bosse. Et c'est vraiment cette gestion d'être capable de lisser l'effort à la montée et de jamais trop en faire, quoi. L'important en trail, c'est d'arriver au-dessus de la bosse et puis d'être dispo, quoi. D'être dispo parce qu'on voit très bien que les différences, elles vont se faire sur la relance, elles vont se faire sur la capacité à bien descendre. Et si t'as monté comme un cochon toute la première partie de course, t'es sûr de t'écrouler après. Donc, c'est vrai que les athlètes qui préparent du long, quand j'ai ce discours-là, ils sont un peu rassurés à se dire, ah ouais, mais finalement, ouais, la montée, réussir à trouver un rythme qui te va bien, et voilà, sans se prendre pour un autre. Mais par contre, axé sur le fait que la relance, la descente, c'est là qu'il faut être solide. Je trouve que c'est un point important. L'athlète, il voit un petit peu la discipline, parce que voilà, il y a très peu d'athlètes qui se cantonnent à faire du court. On essaye tous progressivement de passer un petit peu plus long, et je trouve que c'est un côté assez rassurant de se dire de pas sacraliser la montée comme il faut être le meilleur grimpeur pour non. Enfin, en trail, il y a mille et un exemples qui le prouvent que. Voilà, bien gérer sa montée pour pouvoir ensuite exploiter toutes les autres parties de la course, c'est souvent une stratégie qui est gagnante. Et l'athlète, ça lui enlève un certain poids. Et je trouve que là, il y a des vrais axes de progrès ensuite.
Ah, c'est pour ça que la phrase « un trail se gagne en montée, se perd en descente », en fait, elle est à nuancer et expliquer, parce que ouais. On a l'impression que ça veut dire que l'un équivaut à l'autre et que tu peux autant perdre de place dans l'un que dans l'autre. Alors que pas vraiment, en fait.
Ouais. Alors, elle se perd en... Les piètres descendeurs, c'est sûr qu'ils ont aucune chance parce que... Toi, sur une bosse de... Allez, on va prendre l'exemple d'une bosse de 1000, un KV en début de course, comme c'est souvent le cas dans les grandes courses alpines, les grands ultra-alpins. Allez, tu vas mettre 5-6 minutes, peut-être... un gars qui n'aura pas forcé, mais derrière, en descente, c'est tellement facile de se reprendre 10-15 minutes parce que tu descends mal ou parce que voilà, t'as fait monter le cardio totalement dans le rouge et que derrière, c'est impossible de te remobiliser. Donc, il se gagne en montée, ouais, c'est vraiment une phrase que je nuance et j'aime vraiment bien axer toute la prépa sur le reste, enfin la prépa d'un ultra sur le reste que plutôt sur la capacité de monter. C'est assez paradoxal avec moi qui viens du KV, mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose à creuser pour tous les coureurs qui veulent se lancer sur du long.
Sur tes aventures, on voit souvent que tu vas participer à des effectivement des courses organisées, hein, comme un KV, mais mmh. tu fais aussi beaucoup d'aventures, de défis perso. Qu'est-ce que tu préfères?
Ni l'un ni l'autre, en fait. Je pense que c'est vraiment, enfin moi c'est un équilibre. Toi dans les deux objectifs qui me restent là cette année, c'est l'ultra du Beaufortin, donc dans un gros mois là, le 22 juillet, donc une course vraiment mon premier ultra avec un dossard, où... et ça me bah, ça m'excite comme si c'était mon premier KV. Je m'en rappelle il y a 4 ans à Madère là, ma première Coupe du Monde de KV où j'en pouvais. Là c'est pareil, j'ai vraiment une grosse impatience. Et puis derrière, j'aimerais faire un 400 bornes à vélo. Des gars qui ont tracé ça, ils ont mis une trace en ligne, un peu comme les 7 majeurs, où tu fais ça quand tu veux, tu pars d'où tu veux, faut juste faire la trace, un 400 bornes avec 10 000 mètres de positif, au cœur des Vosges, et voilà, totalement off, peut-être que je ferai ça en solo, peut-être qu'on sera 2 ou 3 si j'arrive à motiver des gars. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là, passer d'un dossard à... Et ensuite passer à un truc off où c'est toi qui gères tout, parce que le dossard c'est une date, c'est une heure, c'est un lieu précis, et puis ben voilà, t'es un peu soumis à tout ça, alors que le défi off, tu t'as beaucoup beaucoup moins de contraintes, et je pense que ça parle de plus en plus, enfin dans nos vies on est assez cadré avec notre boulot, nos trucs, il faut qu'à enfin voilà, tout est rythmé. Et dans le défi off, il y a ce côté un petit peu, bah, c'est toi qui prends en charge le truc, quoi. Tu pars à l'aventure quand tu veux. Si t'as envie de partir au pied de ta porte, tu pars au pied de ta porte, et puis personne pourra t'as pas de certificat médical à envoyer, t'as pas de liste de matériel obligatoire. C'est un sentiment de liberté qui, je pense, enfin, voilà, vu la période qu'on traverse et qu'on a traversé, qui est forcément au goût du jour, parce que on peut pas tout le temps être, même dans notre loisir, être contraint de dire cette course-là, ça sera ce jour-là. Donc là, le 400 bornes à vélo, je sais pas quand c'est que je le ferai entre le 15 août et le 15 septembre quand j'en aurai envie.
C'est vrai que ces défis off, en fait, ça te fait prendre conscience que les trails organisés, c'est un tel luxe. Après, t'as rien à prévoir, t'as des gens qui te donnent à manger, t'as du balisage, t'as des gens qui viennent te chercher si jamais t'as un problème. Mmh. Ah, c'est vraiment un grand luxe. Après, tu te rends compte en fait que bah, y a beaucoup de choses qui te semblent beaucoup plus faciles une fois que t'as déjà fait du off. Et ça te permet de relativiser pas mal les difficultés que tu peux avoir pendant une course. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'adore faire au moins une fois par an maintenant, de faire un gros défi en solitaire, même si j'adore effectivement cette effervescence qu'il y a autour d'un événement et cette ligne de départ avec plein de coureurs qui partagent la même passion que toi. C'est aussi quelque chose qui est super chouette à vivre. Et le mix des deux est vraiment chouette, je trouve.
Ouais. Je pense vraiment que c'est ce... De plus en plus, hein, donc je suis vraiment pas en train de dire qu'il faut déserter les lignes de départ de courses organisées, parce que voilà, comme tu dis, il y a une émulation, il y a un truc que tu retrouves pas quand t'es tout seul avec toi. Mais le fait, ouais, de se confronter à monter son propre projet, et puis de savoir que ben ouais, quand tu vas faire ton truc, ben ouais, il y aura pas à manger tous les 13 kilomètres ou. Il y a ce côté aventure, ouais. Je pense qu'on a tous en nous ce petit côté aventurier. On le perd plus ou moins suivant notre mode de vie, mais quand on s'y retrouve et on est surtout maître de ce projet-là, quoi. C'est toi personnellement qui crée le truc, que ça soit un tout petit truc à ton échelle ou une vraie aventure de plusieurs semaines. Tu redeviens maître de ton projet de vie, et ouais, c'est important.
Non, c'est vrai que c'est vrai qu'en plus on a tous des petites choses comme ça qui nous font rêver autour de chez soi, des longues balades, tiens, je vais regagner cette ville, tiens, je vais aller faire tout ce massif, tiens, je vais faire le tour de telle ville. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis, comme tu dis, en partant de chez soi, en ouvrant la porte, pas forcément obligé de traverser la France à chaque fois. Pour avoir de superbes souvenirs et une belle expérience qui peut aussi être partagée avec des amis. Je voulais partir sur un autre sujet que rien à voir, quoique. Toi qui es prof de PS, moi je suis papa d'un garçon de 6 ans qui adore courir, faire du sport. Ouais. Comment est-ce que tu gères cet équilibre entre la vie de parent qui aime le sport, mais en même temps qui n'a pas envie de pousser trop ses enfants? Quels sont les tu vois, t'as envie de mettre tes enfants à faire du sport, mais t'as pas non plus envie de les dégoûter. Quelles sont les petites règles comme ça, si on peut dire ça, pour inciter ses enfants à faire du sport, mais pas non plus les dégoûter.
Bon, alors moi je suis pas papa encore, hein, donc j'ai pas ce côté, enfin vraiment. Après, j'ai tellement d'élèves que c'est tous un peu mes fistons et mes filles, parce que je les adore et je les traite comme mes propres enfants, parce que en plus cette année je suis à 5 km de la maison, je suis dans un lycée, enfin un collège et un lycée de montagne où j'anime plusieurs fois par semaine la classe montagne, où vraiment voilà, je les emmène en pleine nature, on fait du trail, on fait du ski de rando, ils font du parapente avec un moniteur, donc bref, c'est un peu la vie au grand air. Et en EPS, par contre, voilà, j'ai les gamins qui sont entre guillemets à l'école obligatoire et qui font du sport. Et il y en a qui n'aiment pas ça. Et j'essaie, moi vraiment, j'axe tous mes cours, que ce soit du sport co ou de la pleine nature, sur essayer vraiment à mon échelle de redonner un tout petit peu à l'élève le goût de l'effort. Et ensuite, qu'il aime ou qu'il aime pas l'activité, il y trouvera du plaisir et j'espère du sens, parce que tu te rends compte que notre, enfin c'est vraiment une critique là, enfin je le vois vraiment, ça fait 11 ans que je suis prof et entre la première année et aujourd'hui, même si je suis dans un bahut favorisé avec des gamins qui sortent, tout est fait quand même pour que l'enfant là il se coupe un petit peu du monde extérieur, enfin du monde naturel, et qui perdent ce goût de l'effort qui est pour moi vraiment capital, et enfin sinon c'est renier un petit peu ce qu'on est d'un point de vue vraiment physiologique. Donc réussir à lui redonner un petit peu le goût de l'effort, mais vraiment sur il y en a, ça part de tellement loin, ça va juste être ouais qu'il ait ses affaires et qu'il pratique et ensuite il y a des gosses qui vont s'épanouir dans une activité parce que voilà, on va aller faire du parapente, c'est dingue, et ça sera peut-être plus excitant qu'aller faire du badminton en gymnase. Mais vraiment, le ciment de tout ça, ça va être le goût de l'effort, ça va être trouver du plaisir à pratiquer et à mettre son corps en mouvement. En fait, le gamin, maintenant, il est mis dans une société où ben, son corps, finalement, il l'utilise plus, il sait plus l'utiliser, il sait plus qui il est. Et je trouve qu'en grandissant, ben, ça devient... Ouais, ça, c'est vraiment des questions hyper, hyper importantes. Et le fait de remettre son corps en mouvement, que ça soit dans des activités corporelles, moi, j'aime bien enseigner, tu vois, on peut enseigner la danse, le step, enfin, c'est des activités qui paraissent un petit peu comme ça, et qui finalement, quand le gamin, il prend conscience, ben ouais, qu'il a un corps qui à lui, tu vois, que c'est vraiment son truc qui le caractérise, et qui commence à reprendre du plaisir à bouger, à eh ben je sais que j'ai gagné. Et je pense que oui, la grosse erreur, c'est de vouloir entre guillemets refléter nos regrets ou nos remords sur nos enfants, à dire ah, j'aurais tellement aimé commencer la course à pied à 8 ans, peut-être à cette heure-ci, je serais un élite, je serais trop fort, et c'est un petit peu transféré, et ça je le vois, enfin je l'ai beaucoup vu dans quand on fait les compétitions UNSS de coach comme ça, enfin les vieilles figures du coach comme ça qui je trouve qui insuffle aux gamins une sorte d'esprit un peu compétiteur, mais pas dans le bon sens du terme. Et tu vois que je pense que moi la dernière de mes missions, c'est de vouloir faire d'un gamin un champion, ou non. Le gamin, il se révélera tout seul. Et s'il a envie d'exprimer, enfin, et de montrer ce qu'il est capable avec son corps en faisant de la musique ou en faisant de la peinture, et ben qu'il le fasse comme ça, quoi. On n'est pas tous obligés de se révéler dans l'activité physique, quoi. Enfin, physique ou sportive. Donc, par contre, redonner la conscience du corps et le goût de l'effort, c'est quelque chose, moi, qui m'anime tous les jours et que j'essaye de. Que ça soit avec les gamins ou alors en tant qu'accompagnateur en montagne, en faisant des sorties trail ou juste même des sorties pour aller observer la faune, la flore, parce que C'est aussi ça qui m'a fait venir à la discipline, c'est que j'adore être en montagne, mais pas que pour bouger, c'est aussi pour regarder ce qui se passe autour. Et le gamin, tu te rends compte qu'il est hyper intéressé, que bah, dès que tu arrives à le brancher un petit peu, à lui donner un sens un centre d'intérêt, un sens à ce que tu lui proposes, bah, il va s'engouffrer dedans. Le gamin, il est tellement curieux naturellement que. Mais c'est ça, c'est ouais, éveiller sa curiosité, lui donner le goût de l'effort, et puis une fois que t'as soufflé un peu sur la braise, le feu il prend tout seul, et puis après c'est plus à toi à agir.
Et tu trouves que depuis que tu as commencé, la sédentarité chez les enfants a augmenté ou parce que enfin finalement on a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, de la prévention. Bah, et, tu vois, du temps de nos parents, on savait pas trop que les écrans c'était pas très bon et ils nous collaient devant les écrans. Voilà, maintenant on a quand même un peu de recul sur ces sujets-là. La sédentarité, c'est un peu pareil et il y a plus de prévention, d'actions qui sont mises en place. Et tu trouves que pour autant ça a augmenté?
Ouais. Moi, je le vois vraiment. Alors après, voilà, la prise de conscience, elle est réelle et peut-être qu'elle va entre guillemets, les effets visibles sur les gamins, ils seront faits un peu à rebours et que c'est peut-être la prochaine génération qui sera. Mais là, je pense vraiment qu'on est dans une. Enfin, moi, les gamins que je vois depuis 10 ans, on est dans une génération. Et encore, enfin, j'ai bossé 5 ans en région parisienne dans des banlieues très compliquées où vraiment là, ouais, c'était leur cadet de leurs soucis. Mais même là, tu vois, à Gérardmer, qui est une petite commune vosgienne, qui est vraiment au cœur de plein d'activités de montagne, il y a toujours des gamins, de par l'éducation parentale, qui vont être éveillés et puis où la sédentarité ne les touchera pas, mais il y a de plus en plus un noyau de personnes qui, ouais, je trouve qui ont vraiment du mal à se reconnecter, puis à avoir vraiment cette conscience de ce qu'ils peuvent faire avec leur corps, quoi, à part être derrière les écrans. Et ouais, je pense que toute la prise de conscience qui a lieu, elle se fera. Moi, je suis assez optimiste, hein, enfin, je veux pas dire que ça va, voilà, être une sorte de dégringolade comme ça, permanente, et que je pense qu'il va y avoir un rebond, comme tout. Enfin, je pense qu'on est on est dans des années vraiment au cœur de plein de changements qui seront visibles plus tard, où il y aura des personnes qui vont continuer, je pense, cette lente un peu sédentarité, puis d'autres, enfin, il va y avoir un truc qui va renaître et qui va une impulsion. Mais je pense que ça se fait à long terme. Mais par contre, ouais, je suis assez optimiste sur le fait qu'il y ait plein de belles choses à venir et que les générations futures sont peut-être beaucoup plus à même de se reprendre en charge et de revivre un petit peu de façon harmonieuse.
Ah, tu vois, j'aurais pas pensé ça, tu vois, surtout dans une région de montagne. Tu vois, l'autre jour j'étais à Besançon et je voyais sur les bus des Manon Board, Sangay Sherpa, Thibaut Borognan, qui étaient affichés sur les bus comme des stars locales. Et puis du coup, tu te dis, puis même quand tu te promènes dans les rues, tu vois les gens qui sont habillés en sportwear, et tu te dis bon, il y a quand même une dynamique sportive qui est dans ces régions-là. Et contrairement à Quimper, où le jour où il y aura une élite du trail breton sur un bus, je sais pas quand est-ce que ça viendra, mais et je pensais que ça allait pas être le cas dans toutes les régions, mais du coup ça veut dire que dans d'autres régions ça doit être encore pire, quoi.
Ouais, non, mais alors c'est comme dans tous les sujets, il y a un truc à deux vitesses et puis le fossé se creuse malheureusement, mais le but c'est d'essayer de renverser un peu la tendance. Mais si, enfin, il y a vraiment ce truc à deux vitesses où de toute façon les gamins qui sont déjà dehors et qui aiment ça, et ben finalement, toi, t'as beaucoup de choses à leur apporter, mais on va dire que cette première impulsion, ils l'ont déjà eue de par leur éducation, donc c'est beaucoup plus facile. Et par contre, les autres, le reste, c'est là, il y a un vrai boulot à faire, et je trouve qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux. Après, voilà, c'est une expérience que je te partage. Ça fait 10 ans que je vois ça, puis c'est un ressenti qui est. Après, voilà, il y a eu aussi tout le côté Covid, confinement et tout le bazar qui a aussi mis peut-être un coup d'arrêt à ce qui était déjà entrepris. Et je pense qu'on, d'un point de vue psychologique, c'est une période qui va laisser des traces.
Ah mais tu vois ça, cette période-là, moi je me suis complètement planté parce que je me suis dit que ça allait justement réveiller les gens et se dire qu'ils avaient besoin de bouger pour être heureux. Et puis tu vois, le fait d'être sédentaire, bloqué chez soi comme ça, qui te rend un peu touche à foin, ouais. Et ben ça allait t'inciter à faire une activité. On a vu d'ailleurs des gens qui se sont mis à courir parce qu'ils avaient plus le choix, il y avait plus que ça qu'ils pouvaient faire. Et puis ben après ça s'est un peu essoufflé, ouais. Et puis en fait pas
on
trop.
Est... Moi, j'adore dire que l'homme, enfin qu'on est un animal parmi d'autres, et je pense qu'on est vraiment l'animal sur Terre qui arrivons le moins à tirer le son des événements passés. Quand on retombe toujours un peu dans les mêmes travers, mais enfin, c'est pareil. Post confinement, j'avais jamais vu autant de monde sur les crêtes vosgiennes. D'habitude, moi, je courais en semaine là-bas. Si je voyais deux personnes, et puis là, je voyais des hordes de personnes, et je me suis dit, ah ouais, bah, ça y est. Enfin, et puis là, 2-3 ans après, voilà, on est retourné dans un truc plus passif où on a l'impression d'avoir oublié ce qui s'est passé, voire même c'était tellement traumatique qu'on a un peu enfui ça, et puis on se dit ouais non c'est pas arrivé quoi, ou alors ça n'arrivera plus. Et ouais, je pense qu'on a du mal quand même à tirer les leçons des événements passés, qu'on retombe vite dans nos travers. Après voilà, c'est un constat un peu bateau, un peu général, mais chacun doit se prendre en main. Et puis je pense que la jeunesse qui arrive, elle va réussir à trouver des belles alternatives à tout ça, et puis à faire un monde un peu plus, ouais, plus harmonieux, parce que je trouve qu'il manque des fois un peu d'harmonie entre tout ça.
Et tu vois, pour le sujet des enfants, moi j'ai vraiment un problème avec le fait d'être le papa qui va pousser son fils à continuer malgré qu'il a pas trop envie de faire tel ou tel sport, versus de lui dire OK, ben, parce que tu sais, le fait de persévérer même quand t'as pas envie, ça apporte des certaines valeurs aussi. Mmh. Et puis le fait d'être le papa qui va insister alors que bah, profondément il en a pas envie, d'être un peu bourreau, c'est pas du tout non plus ce que j'ai envie d'être. Et je trouve que trouver cet équilibre, comme pour beaucoup de choses de toute façon, c'est pas simple du tout, d'avoir justement ce petit de pas le dégoûter quoi. Tu vois, c'est un petit peu ouais. L'objet de la réflexion de départ.
Ouais, non, c'est super difficile. Alors, comme je te dis, hein, la paternité, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui me concerne. Donc, par contre, en tant que prof, alors, c'est plus facile parce que tu les vois, allez, entre 2 et 6 heures par semaine. Donc, c'est encore facile à, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, à essayer que son gamin, s'épanouissent, parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, hein, qu'on s'épanouisse dans le sport, dans la peinture, ou dans la poterie, ou dans la permaculture, on s'en fiche, peu importe. Le but, c'est que son gamin, il s'épanouisse. Et je pense que on veut trop, maintenant, tout de suite, voilà, dès que le gamin rentre au collège, savoir, enfin, il faut que tu. Et je pense qu'il y a un temps de maturation chez l'être humain qui est hyper long. Et moi, je vois des fois des collégiens, puis tu les retrouves quelques années plus tard, et tu te vois, et tu te dis, ah, mais c'est incroyable, comme ce gosse, il s'est épanoui, et puis pas du tout dans ce qu'on pensait. Un gars qui était plutôt sportif, et puis il est parti dans totalement autre chose, ou alors tu retrouves un gamin au lycée qui était au collège une loque, enfin, toi, qui savait pas quoi faire de ses 10 doigts, puis qui finalement, voilà, une rencontre avec un entraîneur ou un prof qui a un peu changé sa vision des choses, ben, il s'est épanoui, et tu te dis, ben voilà, je pense qu'il faut laisser le temps. Chacun a une maturité différente, et par contre c'est éveiller sa curiosité et lui proposer plein de trucs. En fait, je pense que le rôle du parent c'est de montrer au gamin, de par l'éducation que tu lui donnes, bah, qu'il existe toutes ces belles choses à faire, puis il arrivera à choisir. Et les gamins que je vois un peu désabusés, bah, parce que c'est des gamins qu'on finalement, on leur montre pas grand chose, quoi. On leur montre rien de beau. Et je pense, ouais, montrer la beauté du monde juste par des photos, par des voyages qu'on peut faire, et ben, le gamin, c'est tellement une éponge qu'il y a bien un jour où ça ressortira, et puis il en fera, il en fera sa passion ou il en fera son métier et puis il s'épanouira là-dedans. Donc je pense que le conseil à donner, ouais, c'est être patient et puis juste être juste celui qui souffle sur les braises et le feu, il prendra peut-être pas là où on pensait qu'il allait prendre, mais si on donne toute son énergie à lui montrer plein de choses, il y aura forcément du beau quand on sortira.
C'est un super conseil parce que tu peux juste des fois aller, tu vois, je me suis acheté un piano, enfin le Père Noël m'a gentiment offert un piano, et ça faisait plus de 10 ans que je me disais que tiens, je vais faire du piano, et puis en fait je faisais pas, et du coup maintenant à la maison il y a un piano et mon fils des fois il joue dessus, peut-être qu'un jour il aura envie d'en faire vraiment, mais peut-être pas, et en fait d'offrir la possibilité d'être là un petit peu comme un, moi je me vois des fois comme un airbag, tu vois, tu dis mais vas-y tente, ouais. Et puis si tu te crashes, bah je serai là, et puis c'est pas grave,
ouais,
c'est pas grave.
Mais oui, c'est pour ça, enfin je pense que nous coureurs, alors voilà, c'est assez large, mais ne plus avoir peur de l'échec, parce que la société nous montre l'échec vraiment comme quelque chose d'interdit, parce que hein, tu vois, on n'a pas le droit de se planter, alors que moi quand j'avais des super profs à la fac, quand j'étais à la fac de sport, qui tout l'apprentissage de l'erreur. En fait, l'erreur, d'un point de vue neurologique, dans notre fonctionnement et le fait de grandir d'un point de vue vraiment physiologique et neurologique, c'est que par l'erreur qu'on grandit. Donc, en fait, le gamin, faut qu'il se plante, faut qu'il essaye, faut qu'il... Et c'est pareil, finalement, c'est ce qu'on vit un petit peu en condensé quand on fait une course longue ou un truc, c'est que, voilà, aux 24 heures, moi, j'ai fait plein d'erreurs, mais... C'est trop bien d'avoir fait toutes ces erreurs, parce que si je les avais pas fait, hein, je me serais dit, bah ok, je vaux 16 000 de dénivelé, bah, j'ai fait ma meilleure perf, bah, vas-y, passe à autre chose. Ah, non, je peux te lister une quinzaine d'erreurs que j'ai faites, des erreurs du débutant à des erreurs beaucoup plus fines, et là, ça te donne une source de progrès, d'inspiration immense. Et le gamin, c'est pareil, il faut qu'il se plante, il faut qu'il tombe, il faut qu'il... Un peu comme quand t'apprends à faire du vélo, quoi. Heureusement que tu te prends des gamelles, sinon ça serait trop simple. Donc ouais, il y a vraiment un parallèle à faire entre ce qu'on fait, enfin nous coureurs, à vouloir essayer de trouver le bon chemin, à l'épanouissement de l'enfant qui c'est une sorte de course, quoi, sa jeunesse, et puis il arrivera bien à trouver, peu importe la position qu'il aura, il trouvera sa place, quoi.
Quand tu reçois un athlète avec qui tu vas débuter un coaching, quand l'athlète va te dire tiens, j'ai envie de préparer tel ultra ou tel défi, est-ce qu'il y a un moment où rentre dans l'échelle la gestion de la vie perso, pro, sportive? Et que tout ça rentre dans un équilibre qui fonctionne. Et est-ce que tu as des histoires comme ça de gens qui ont réussi à essayer de trouver comme ça cet équilibre parfait dans leur vie?
Oui. Alors ça c'est même la première chose que j'aborde. Voilà, on discute souvent, enfin par téléphone parce que. Ou en réel si l'athlète est proche et qu'on peut se rencontrer, mais c'est souvent par téléphone, et je lui demande un petit peu combien de temps il a consacré à son truc, comment il par semaine, est-ce qu'il y a des semaines où il peut des fois se permettre d'avoir plus de temps, et chaque semaine via une application qui s'appelle Nolio, une super base de données et d'entraînement, toutes les semaines il me rend ses disponibilités. Il me dit là cette semaine j'ai pour le sport, pour ma passion, j'ai tant de temps à allouer, j'ai 2 heures le lundi, par contre du mardi au jeudi entre les enfants, le boulot, le truc, ben ça va être compliqué, ou alors je lui dis ben est-ce que il y a moyen de mettre le réveil 1 heure plus tôt, puis on voit, on fait tous ces compromis, et quand on arrive à se dire ok, il y a t'as ce temps-là à allouer à ta passion, à ton truc, on essaye de fixer des objectifs raisonnables. Même si je mets pas de frein, je vais pas dire non, tu fais pas ça. S'il me dit je veux faire ça, je vais lui dire ok, mais il va falloir consacrer ce temps-là, où et on essaye de trouver ce compromis là. Et en fait, c'est le quasiment le seul travail du coach, en fait, c'est d'être l'intermédiaire entre un athlète qui a un peu une vision des choses un peu fantasmée du truc, on va s'entraîner un peu comme Kylian. Non, ça marche pas comme ça. Parce que déjà la génétique t'as pas donné toutes les mêmes chances. Et surtout parce que t'es pas un athlète de haut niveau. Enfin, dans 99% des cas, j'ai pas des athlètes de haut niveau. T'es monsieur et madame tout le monde, et c'est ça qui est super. Tu vas essayer de concilier ça. Et l'athlète, quand il a, parce qu'on les appelle tous des athlètes, c'est normal, hein, qu'on fasse 2 heures de sport par semaine ou 30 heures. Quand l'athlète, il a compris que, ben, son sport, là, ça doit pas tout vampiriser et que, par contre, s'il y a 10 heures d'entraînement par semaine, c'est 10 heures où t'as pas la tête ailleurs, quoi. T'as la tête à ce que tu fais, sinon ça sert à rien de payer un coach, de payer 150 balles un dossard, enfin d'avoir un vrai coût financier pour finalement faire de la merde. Donc moi l'entraîneur, je le vois vraiment comme quelqu'un qui essaye de poser sur la table et de faire prendre conscience à l'athlète que, ben voilà, avec ce temps-là, ce truc-là, on peut faire plein de belles choses, et puis ben, on va se lancer que ça soit du off ou du dossard. On va se lancer dans une prépa qui va être belle et qui va l'épanouir. J'ai perdu ta deuxième question.
c'était de trouver comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre, parce que souvent, en fait, quand on enfin, je prends mon cas perso là, début d'année, je me suis donné vraiment beaucoup 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 de temps pour l'entraînement, et j'ai un peu laissé le côté pro. Bon, j'ai un peu la chance d'être à mon compte, donc je gère un peu cet équilibre là, mais c'est compliqué, tu vois. Et puis j'ai mal préparé un ultra et en ne donnant pas assez de temps, ce qui m'a fait prendre là la décision d'arrêter l'ultra. Mais en fait, il y a des fois, en fait, je reçois des messages de gens qui me disent, ouais, je travaille 12 heures par jour, j'aimerais préparer un ultra, comment je peux faire? Ah, je dis, bah écoute, c'est peut-être pas la bonne période pour que tu prépares un ultra, quoi. Ou alors peut-être que tu fais partie de ces gens qui dorment 5 heures par nuit et ça leur convient, mais qui ont pas d'autres activités dans leur vie que de s'entraîner et de travailler. Mais c'est compliqué, en fait, ce sujet-là, et il revient souvent, en fait, de trouver l'équilibre, ouais. Surtout quand on prépare un ultra et qu'on a besoin de passer du temps sur le terrain, quoi.
Bah tu vois, regarde, je vais aller contre la règle numéro 1 que tu as mis en place. Avant qu'on enregistre, tu m'as demandé s'il y avait une question que tu voulais pas qu'on me pose. Finalement, je vais plus ou moins y répondre, tu vois, comme quoi tout peut arriver. Moi, je voulais pas qu'on me pose la question pourquoi tu fais ça. Et je pense que là, ce que tu viens de mettre, enfin, tu viens de poser le doigt sur cette question. En fait, on doit tous, même avant de savoir combien de temps on a, est-ce qu'on a 3 gosses à s'occuper, un boulot chiant, enfin voilà, une belle-mère un peu pénible. Avant de mettre tout ça sur la table, on doit se poser la question, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi tu vas te faire chier à courir 10h, 15h, 20h? Pourquoi tu vas te faire chier à aller faire un ultra? Tant que t'as pas répondu à cette question et qu'elle est pas claire dans ta tête, pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai la réponse, je la donnerai pas parce que ça n'intéresse personne. Mais je pense que c'est la seule question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait la démarche déjà de, bah, soit d'appeler un coach, soit de, mais surtout pourquoi tu, qu'est-ce que tu vas chercher? Quelles sont les réponses que tu vas chercher en faisant cette pratique qui est quand même pas anodine, hein, d'aller courir plusieurs heures, des fois plusieurs jours en montagne. On doit être franc avec soi-même. Il y a des gens qui passent par des psychologues pour répondre à cette question. Il y a des gens qui arrivent à y répondre un peu tout seul. Mais je pense que ouais, un truc à faire. Et moi, je le dis aux athlètes, c'est tu te mets à poil devant la glace et tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu combles un manque? Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à s'en sortir et qui sont épanouis sans faire tout ça? Donc pourquoi on s'inflige ça?
Moi, je suis convaincu que ça se fait en étant accompagné de quelqu'un, et que si tu le fais tout seul, tu vas te donner des réponses qui seront peut-être pas les bonnes réponses, et que c'est quelqu'un qui va vraiment pointer ou te faire te poser les bonnes questions, Je pense que pour vraiment bien bien le faire, faut le faire accompagné d'un préparateur mental, voire un psychologue du sport.
Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a tous un moment dans sa vie quelqu'un qui t'a posé la question là de façon anodine, enfin total un peu bébête, mais tu sais, des fois tu reviens d'un ultra totalement en vrac, t'as dormi 3 heures en une semaine, t'étais. Puis les gens disent mais pourquoi tu fais ça? Et si quand on te pose la question là toi-même, tu te dis ben parce que c'est cool de courir en montagne. Non, enfin c'est pas suffisant. Il y a autre chose. On a tous quelque chose qui nous pousse un peu plus de façon un peu plus personnelle et un peu plus intime à faire ce qu'on fait. Voilà, on l'exprime. Je reviens sur le parallèle avec les arts, avec la peinture, avec le jardin. Chacun dans sa passion arrive à révéler qui il est. Mais il faut quand même avoir les outils pour savoir pourquoi tu le fais. Et une fois que tu as ces outils-là et que tu as une réponse, même qui va varier dans le temps, hein, c'est pas un truc qui est gravé, hein, c'est beaucoup plus facile de surmonter les épreuves et d'avoir une harmonie entre sa vie pro, sa vie familiale, sa vie de sportif. Et une fois que tu as ce truc un petit peu harmonieux, puis ça rejoint un petit peu ce qu'on essaye quand même d'inculquer à nos gamins, cette harmonie. Une fois qu'il y a ça, bah, tout est facile. Et alors, voilà, tout n'est pas rose, hein, mais on a tous nos tracas quotidiens. Mais quand tu arrives à trouver de l'harmonie entre ce que tu fais, de ta passion, entre ton boulot, entre la vie familiale qui garde quand même un côté et un temps raisonnable parce que voilà, on a tous des situations différentes, mais il faut trouver cette harmonie, sinon ça ne dure qu'un temps. Et puis le nombre de sportifs que je, entre guillemets, qui évoquent le burn-out ou parce qu'ils sont partis dans une impasse, ils sont partis dans un truc pour combler un manque, et puis ça, c'est un peu un feu de paille, quoi. Ça fait beaucoup de lumière, puis ça s'éteint finalement assez vite.
Tu vois, la première fois que j'ai pris conscience de ce vrai pourquoi, c'est mon médecin qui m'avait demandé « Mais pourquoi vous faites ça ?» Ouais. C'est quand ton médecin commence à te poser des questions, tu te dis « Bon ». Et puis, moi, j'avais dit « Bah, j'ai mon papa qui était fumeur, en surpoids, qui est décédé d'un cancer du poumon. Moi, je fais ça pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et puis voir mes enfants le plus vieux possible, tout en pouvant faire des activités avec eux jusqu'à le plus tard possible. » Puis il m'avait répondu « Ouais, mais quelqu'un qui veut faire être en bonne santé, faire du sport, il va courir 3 fois par semaine pendant 1 heure. Vous, là, c'est pas ça. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il y a autre chose. Mmh. Et là, tu te dis, il y a autre chose. Mais c'est quoi, c'est autre chose? Ouais. Et là, tu te dis, bon, bah voilà, va peut-être falloir commencer à se poser les bonnes questions, quoi.
Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. On essaye de. Enfin, on est aussi l'animal sur Terre qui arrive à se mentir le plus à soi-même. Hein, à trouver une réponse qui nous va, puis qui fait bien quand on nous la pose à table, la réponse qui convient à tout le monde. Et puis finalement, non, c'est pas celle qui est. Quand tu grattes un peu le vernis, tu vois qu'il y a autre chose. Mais oui, ça c'est. Enfin, je pense que c'est le travail principal que l'athlète, enfin, que l'homme, enfin, l'homme ou la femme en général doit se poser, dans peu importe ce qu'il fasse. Et puis quand tu as la réponse, et quand tu arrives à allier tout ça, et que ça dure et que ça s'inscrit dans la durée, ben ouais, je pense qu'il y a de belles choses à faire. Puis t'es, ben, du coup, même en tant que père, en tant que prof, t'es encore plus à même d'éveiller la génération qui arrive à d'autres choses, parce que faut pas se leurrer, hein, des profs un peu aigris, un peu, enfin, il y en a beaucoup, hein, qui ont du mal à encore transmettre de belles choses. Mais par contre, quand t'arrives à le faire en tant que père, en tant que prof, parce que ouais, t'as trouvé l'harmonie et que t'arrives à la transposer aux autres, c'est chouette.
Ouais, puis on a tous ce prof qui nous a marqué, qui nous a fait changer, dont on se souvient.
Ouais. Exact.
Moi, je me souviens d'un prof qui, pour m'expliquer la mécanique, il avait shooté dans une chaise pour tu vois des profs comme ça qui étaient tous un peu passionnés, un peu barrés, et qui te faisaient transmettre les choses, qui les vivaient, quoi. Et là tu te dis ah ouais, lui, moi j'ai quelqu'un qui m'a raconté que un prof d'histoire qui montait sur la table pour raconter l'histoire de Napoléon, tu vois. Enfin,
mec. Ouais, c'est ça, c'est il met sa patte perso, et puis sortir un peu des quand ça sort des conventions, que ça casse un peu les codes. T'arrives à créer un petit déclic, et c'est souvent là que ça se passe. C'est dans la faille.
Benoît, on arrive gentiment à notre heure d'enregistrement, comme je t'avais dit. Est-ce qu'il y a un sujet, un thème, une question, quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange?
Écoute, non, je vois pas de sujet. Il n'y a pas de sujet qui me vienne comme ça à l'esprit. Je pense qu'on a, une fois passé un petit peu l'explication de mon défi comme ça, qui va intéresser une ou deux personnes, allez, peut-être un peu plus, mais non, je pense que toute la suite de notre conversation là, c'est ça qui est au cœur du truc, quoi. C'est comment réussir à transmettre, comment réussir à se connaître, et une fois qu'on a bien creusé le sujet, on a essayé d'apporter un peu nos points de vue différents, je pense qu'on a déjà bien fait avancer le schmilblick.
En tout cas, bougez-vous, défiez-vous. Ça, c'était ma phrase avant, quand je créais du contenu. Je disais tout le temps à la fin des choses, défiez-vous. C'était un peu mon mantra. J'aime bien quand les gens se lancent des défis, même s'ils les foirent. C'est toujours chouette. Ouais. Sur la course que j'organise, là, le Grand Raid du Finistère, il y a plein de gens qui me disent, ouais, je sais pas si je serais capable. Je dis, bah, viens. Et puis, si au pire, tu te foires, bah, l'année prochaine, tu reviendras en étant mieux préparé et tu sauras pourquoi t'étais pas prêt.
Ouais, moi, j'aime bien dire aux gamins, osez, quoi. Allez-y, osez, faites votre propre expérience, parce que maintenant, tu sais, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'ils veulent faire un truc, ils regardent un tuto YouTube, quoi, non, fais-le toi-même, ton tuto YouTube, et puis fais ta propre expérience, quoi. Ne vis pas par expérience interposée, parce que t'es pas l'autre n'est pas toi, c'est pourquoi tu fais ça, et puis une fois que t'as la réponse ou une bribe de réponse, et ben, même si tu t'es cassé la gueule, tu verras, la prochaine fois, ça sera mille fois mieux.
Eh ben, c'est une belle phrase de clôture. Merci beaucoup, Benoît, pour le temps que tu auras accordé au podcast L'Instant Outdoor. Et j'espère, chers auditeurs, que cet épisode vous aura plu, aidé, intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Merci beaucoup, Benoît, encore une fois, pour ton temps. À bientôt.
Merci, François. Merci beaucoup. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.